Philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 29 mai 85.
Alors nous avions terminé hier sur ce passage d'Aristote que je relis, étant donné l'importance de ce passage. Toutes choses ne sont pas dites également en actes, sinon d'une façon analogique, comme ceci et dans ceci ou vers ceci. C'est ça la très grosse difficulté, si on veut entrer vraiment dans la pensée d'Aristote, que ça veut dire exactement ceci, dans ceci ou vers ceci. Ainsi, cela est dans cela ou vers cela. Certains êtres, en effet, sont comme un mouvement par rapport à la puissance, alors c'est le pros, d'autres comme une substance par rapport à la matière. Autrement dit, je crois qu'Aristote souligne ici ces deux grandes modalités de l'acte. La modalité de la forme qui est dans la matière et la modalité de l'exercice, de l'opération qui est vers la fin, vers le bien. C'est intéressant parce que ça nous fait comprendre justement que ces deux modalités de l'acte, qui sont irréductibles l'une par rapport à l'autre, nous montrent bien comment il y aura toujours ces deux grands aspects dans la métaphysique de l'acte, l'un, la forme actue la matière, et l'opération actue le vivant. L'être et la vie. Le point de vue de la finalité et le point de vue de la forme. Comme deux modalités, ne dis pas plus. Hein. Voilà ce qui est net. La découverte de l'acte est une découverte analogique et non une saisie directe. Ça, il le dit. L'acte ne peut jamais être saisi comme une quidité. L'acte n'est pas saisi. Alors évidemment, même quand on dit que la forme actue, la forme est quidité, mais en tant qu'elle actue, elle n'est pas quidité. C'est autre chose. L'acte ne peut jamais être saisi comme une quidité, il est saisi dans un rapport spécial à ce qui est en puissance. Aristote, donc en puissance, la forme par rapport à la matière, donc cette relation. Et Aristote souligne donc le N et le pros. Le N.
Les deux grandes modalités qui soulignent de l'acte.
Être dans quelque chose ou être vers. Et c'est comme une espèce de relation qui se fait. La forme actue, elle est dans la forme, elle est dans la matière. Et l'opération actue, il est vers le bien. Donc Aristote souligne ces deux aspects de ce rapport en disant comme ceci est en ceci ou vers ceci. Y a-t-il là comme un aspect d'immanence et un autre de transcendance? N'explique pas plus, hein. On essaie de comprendre cette découverte d'Aristote, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Le mouvement en téléchie est dans le patient. L'acte est dans ce qui est en puissance. Et il dit, l'ousia est vers la matière. L'acte est vers ce qui est en puissance. Ne serait-il pas plus juste de dire que la matière est vers l'ousia, puisque la puissance est essentiellement ordonnée à l'acte. Et comme c'est délicat à saisir, c'est un petit passage très difficile. Je ne veux pas insister trop, mais c'est intéressant. Ce qui me, je crois, intéressant au point de vue philosophique, c'est de voir que tout de suite Aristote souligne, à la différence de la substance, c'est qu'il y a tout de suite deux manières de saisir l'acte. Pourquoi Aristote dit-il ici que ce qui est séparé de la matière, ce qui est acte, est vers la matière? De fait, lorsqu'il parlera de l'antériorité de l'acte sur la puissance, du point de vue du logos, donc du point de vue de l'intelligibilité et du point de vue de la substance, il dira que la puissance est essentiellement ordonnée à l'acte. Mais ici, au niveau de la découverte inductive, on comprend pourquoi tel acte est dit vers ce qui est en puissance à son égard. Car il n'est pas encore saisi en lui-même dans sa parfaite antériorité. C'est une explication. Vous voyez, l'acte n'est pas encore saisi comme principe. Mais il est saisi dans son exercice, c'est-à-dire dans son état. Alors, je crois que ça, on peut le dire. Et c'est pour ça qu'il est vert. Je n'insiste pas trop, parce que ça, c'est de l'exégèse d'Aristote. C'est intéressant, parce que c'est quand même le premier philosophe qui nous fait découvrir ce que c'est que l'acte et la puissance. C'est donc intéressant de voir tout de suite, il donne ces deux modalités. Pour bien montrer le caractère analogique de cette découverte de l'acte, Aristote note que l'infini, le vide et tout ce qui est semblable sont dits en puissance et en acte d'une manière particulière, autre que pour celui qui voit, celui qui marche, celui qui est vu. Ce qui est vu, en effet, exprime d'une part qu'il est vu, d'autre part, qu'il peut être vu, tandis que l'infini n'est pas en puissance de telle sorte qu'il soit par la suite en acte d'une façon séparée. Il est seulement infini en puissance pour la connaissance. C'est Aristote qui dit ça. C'est le fait que la division ne puisse pas faire défaut qui explique que l'acte n'existe pour l'infini qu'en puissance et non d'une manière séparée. L'infini n'existe jamais d'une manière séparée pour Aristote, hein, en ce sens que Aristote ne dira jamais que l'être premier est infini. Il reste au niveau de l'infini dans le sens quantitatif, ce qui est divisible. Ce qui est divisible à l'infini. Si l'acte n'est saisi que d'une manière analogique, il faut donc, pour comprendre ce qu'il est, étudier ses diverses modalités. Son poion di. Alors, la première, essayons de préciser, ça ne te précise pas d'une façon très très nette, mais je crois qu'on peut quand même le préciser. La première est celle de l'action. Ce qui est normal, étant donné la proximité si grande de l'acte et de l'action. Proximité telle qu'au niveau psychologique, nous confondons très souvent les deux. Qu'est-ce que c'est pour nous? L'acte, c'est l'action. Puisque parmi les actions qui ont un terme, péras, aucune n'est fin, mais toutes ont seulement rapport à une fin. Par exemple, l'amaigrissement, lorsqu'on maigrit, est un mouvement auquel n'appartient pas la finalité de ce mouvement. Il n'y a pas là action praxis, ou du moins pas action achevée, puisqu'il n'y a pas de fin, telos, mais ce à quoi appartient d'une façon immanente la fin, voilà l'action. Autrement dit, Aristote va définir ici, à l'intérieur de l'action, de l'activité, à l'intérieur du mouvement, un mouvement qui possède d'une manière immanente son terme et une action qui ne va pas posséder d'une façon immanente son terme et qui sera ordonnée à l'autre. Ce que la scolastique dira, l'action immanente, l'action transitive. Et au fond, vous voyez que ceci, c'est par rapport à la fin. Quand une action possède en elle-même son propre terme, on est en présence d'une action immanente, la vision. Quand une action ne possède pas en elle-même son propre terme, quand je réalise une œuvre, le terme de l'action est extrinsèque à l'action. Alors on est en face d'une action transitive. Ça, c'est une petite distinction qui est très intéressante. Qu'Aristote reprend du reste dans l'éthique, hein, faut pas l'oublier, c'est une distinction extrêmement intéressante. Alors c'est intéressant de voir comment il la voit par rapport à la métaphysique de l'acte de puissance. C'est que il y a un mouvement transitif qui ne possède pas son terme. Autrement dit, le devenir, dans toute sa pureté de devenir, ne possède jamais sa fin. Il faut l'action vitale de connaissance pour posséder intrinsèquement sa fin. Ça, c'est tout de suite deux modalités de l'acte. Une modalité qui est le mouvement transitif, une modalité qui est le point de vue de l'immanence. Ce discernement montre bien que l'acte se réalise en premier lieu dans l'action qui possède en elle-même sa fin et non dans le mouvement. Aristote conclut, ce qu'est l'acte et quel il est, cela nous est dit clairement. Il a de la chance, parce que j'avoue que c'est pas toujours commode, hein. Alors, vous relirez ces passages du livre Theta. Je ne vais pas aborder trop d'importance à ce point de vue-là, mais c'est un passage intéressant parce que c'est le lieu premier, mais il est difficile. Alors, quand c'est très difficile dans Aristote, vous pouvez toujours dire que le texte est un peu corrompu, puisque ce sont des notes d'étudiants. Alors, évidemment, ça, c'est la façon très très élégante de passer devant la difficulté. Et on a vraiment un petit peu l'impression, hein, que si je regardais à la fin du cours les notes des étudiants, et que ce soit la seule chose, n'est-ce pas, qui demeure, on dirait, surtout quand c'est difficile, que on voit à peu près. Oui, on voit à peu près. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a saisi d'un principe par voie inductive. Et ce principe, il est fin. Et deuxièmement, il y a immédiatement le poionti. C'est que l'acte étant saisi d'une manière analogique, pour mieux le saisir, je saisis tout de suite ses diverses modalités. Alors, ceci nous aide peut-être à comprendre pourquoi l'interrogation du TST, lorsqu'il s'agit de l'acte, s'accompagne nécessairement de celle du poionti. Donc, les diverses modalités. Oui, alors là, il y a une question qui est intéressante pour ceux qui s'intéressent vraiment à cette question de l'acte et de la puissance. Nous sommes devant l'interrogation de la finalité. En vue de quoi ? Aristote ne le dit jamais. Il dit toujours le tiesti. Il ne dit jamais en vue de quoi. Alors là aussi, ça pose des questions. Vous voyez, je soulève pour montrer que ces textes sont au fond très difficiles. Ils ont été interprétés de multiples manières. Hein. Alors, quand on est devant des textes très difficiles, il ne faut pas trop s'attarder, sauf si vraiment on veut à tout prix faire une thèse là-dessus. Alors à ce moment-là, vous voyez toutes les divergences qui ont été données, puis vous essayez de donner une nouvelle interprétation. Alors à ce moment-là, ça fait une thèse. Et s'il y a 100 interprétations, vous avez une thèse géniale. n'est-ce pas? Parce que plus il y a d'interprétations que vous pouvez rassembler, plus vous avez une thèse géniale. Il y a un passage important et difficile. Aristote ensuite va tout de suite regarder quelque chose qui est très important, il l'a fait pour la substance, la question de l'antériorité de la postériorité. Autrement dit, quand on est en présence de l'être en vous, de l'être en puissance, il y a une question très importante, c'est de comprendre l'ordre qui existe entre les deux. L'ordre entre l'être en acte et l'être en puissance. Il est clair, affirme Aristote, que l'acte est antérieur à la puissance, selon le logos, et selon l'ousia. Quand il y a un ordre, il y a un premier et il y a un second. Alors, l'ordre se dit de diverses manières. Il y a un ordre selon le logos, et il y a un ordre selon l'ousia. Alors, l'ordre selon le logos, c'est quoi? C'est l'ordre d'intelligibilité. On dirait un ordre notionnel. Donc, il faut dire un ordre d'intelligibilité. Et le point de vue de l'ousia, c'est l'ordre de la réalité existante. C'est pas la même chose. L'ordre de l'intelligibilité et l'ordre de la réalité existante. On dirait en gros dans la scolastique, l'ordre selon les sens et l'ordre selon l'existence. Hein, vous voyez bien, j'aime mieux la terminologie d'Aristote. Selon le logos et selon l'ousia. Eh bien, Aristote dit que l'acte, que l'être en acte est premier selon le logos et premier selon l'ousia. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Selon le temps, par contre, il faut distinguer en un sens, l'acte est antérieur. En un autre sens, il ne l'est pas. Troisième distinction, selon le temps. Quand vous êtes selon le temps, vous êtes selon le mouvement. Seul le mouvement est dans le temps. L'ousia n'est pas dans le temps. Le logos n'est pas dans le temps. Donc, vous êtes ici au niveau être, intelligibilité, devenir. Ça, vous comprenez peut-être mieux. Trois ordres. Hein. L'ordre d'intelligibilité, par où on définit une chose. C'est par rapport à l'intelligence. L'ordre de l'existence, de l'essai, de l'être, et l'ordre du devenir. Eh bien, quand on est dans l'ordre du devenir, Aristote dit qu'il faut distinguer. Parce que l'acte n'est pas toujours premier dans l'ordre du devenir. L'acte est premier dans l'ordre du devenir, quand il s'agit d'un devenir qui touche la nature, l'espèce. Et la puissance est première quand il s'agit de l'individu. Toute la question là serait la question de l'évolution. Mais regardez d'un point de vue métaphysique, si j'ose dire. Mais selon l'espèce et selon l'individu. Vous pouvez regarder le devenir selon l'espèce. Selon la nature. Je vais mieux dire la nature. Et selon l'individu. Il est bien évident que selon l'individu, nous passons tout le temps de la puissance à l'acte. Normalement. Si nous sommes en termes de croissance. Donc nous passons de la puissance à l'acte. Donc la puissance est antérieure à l'acte. Avant d'être prophète, on est novice. Alors ça, c'est l'individu. Tandis que l'espèce, c'est la nature. Vous n'avez pas le même ordre pour la nature. Pour la nature, l'acte est toujours antérieur. Je vous lis encore ce texte d'Aristote. C'est extrêmement intéressant. Vous voyez qu'Aristote n'a pas fait du tout les mêmes distinctions quand il s'agit de la substance. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup, regardez comment Aristote regarde l'antériorité de la substance par rapport aux accidents et l'antériorité de l'acte par rapport à la puissance. C'est très intéressant puisque des deux côtés, on est en présence d'un ordre différent. Vous vous souvenez, hier en parlant de l'analogie, je vous avais dit deux divisions dans l'être. Une division au niveau substance-accident, être en acte, être en puissance. S'il y a deux divisions, il y a deux ordres différents. Et ces deux ordres m'aident à comprendre par le fait même ce que représente ce lien entre le point de vue de l'acte et de la puissance. Alors, je vous lis le passage d'Aristote. Que l'acte soit antérieur selon le logos, donc selon l'intelligibilité, c'est évident. Car le possible au sens premier est possible parce qu'il peut être en acte. Ça, c'est la très bonne définition du possible, du natos. Qu'est-ce que c'est que le possible? C'est parce qu'il peut être en acte. Il est donc nécessaire que le logos, c'est-à-dire la connaissance de l'acte, préexiste au logos et à la connaissance de la puissance. Donc, nécessairement, pour connaître la puissance, il faut connaître l'acte. Vous ne pouvez pas connaître le possible sans connaître l'acte. C'est très très important au point de vue critique, ça, vous comprenez? C'est capital au point de vue critique, de savoir si je peux connaître le possible avant l'acte, ou si au contraire je ne peux définir qu'un être en acte. En premier lieu, dans le De Anima, Aristote affirme que le logos de l'être en puissance, c'est l'antéléchi. Très fort ce petit passage du De Anima. Hein. Le logos de l'être en puissance, c'est l'antéléchi. Vous voyez bien, l'intelligibilité du possible, c'est l'acte. Le possible comme tel n'a pas d'intelligibilité en dehors de l'acte. Vous ne connaissez une réalité que quand elle est en acte. Pouvez-vous connaître le chêne si vous ne connaissez que le gland? Vous ne pouvez connaître une réalité qu'en la regardant dans son état de perfection. Ça va très très loin, vous savez ça, pour toutes les méthodes génétiques. Un coup de patte, à la manière d'Aristote, hein, parce que ça, il fait comme ça. Pouvez-vous connaître l'Ancien Testament sans le Nouveau? Il est en puissance vis-à-vis de l'acte. Le logos de la puissance, c'est l'acte. Cette petite phrase du De Anima, elle est très très belle. C'est dans le deuxième livre du De Anima, chapitre 4, 415b14. Le logos, je relis ça parce que ça demande à réfléchir. Le logos de l'être en puissance, c'est l'entelekeia. Cette petite phrase extraordinaire, ça rejoint exactement ça. Ce qui est en puissance n'a pas d'intelligibilité propre. Et donc, ce qui est en puissance ne peut être connu que par l'acte. Donc, c'est nécessairement l'acte qui est premier du côté du logos. Et ça n'a l'air de rien, ça a l'air bête comme chou, hein, ça. Eh bien, vous n'avez qu'à regarder le nombre de gens qui essaient de connaître l'acte par la puissance. avec toutes les méthodes génétiques d'aujourd'hui, l'aspect psychologique, si vous voulez, génétique, ne peut nous faire connaître que le pos, le comment, mais jamais le tiesti. On ne connaît le tiesti d'une réalité, son logos, ce qu'elle est. Parce que définir le logos, c'est la définir. Hein. L'intelligibilité parfaite, c'est la définition. Logos, c'est la définition de temps en temps. C'est l'intelligibilité parfaite. On définit les choses quand on saisit son intelligibilité parfaite. Eh bien, l'intelligibilité d'une réalité en puissance, c'est son acte. En ce qui concerne l'antériorité de l'acte sur la puissance, selon le temps, Aristote dit qu'il faut faire une distinction, est antérieur l'agent, identique selon l'espèce, mais non selon le nombre, c'est-à-dire selon l'individu. En effet, la semence, ce qui est en puissance, est antérieure selon le temps à l'homme qui existe en acte. Mais un être en acte, un homme existant, est lui-même antérieur selon le temps à la puissance. Car toujours, c'est la question de l'œuf et de la poule. Hein, mais des distinctions, vous faites Aristote. Parce que vous dites la poule et l'œuf, ben, indéfiniment. Ben, attention, au point de vue de l'individu, la poule est avant. Non, au point de vue de l'individu, l'œuf est avant. Et au point de vue de l'espèce, la poule est avant. Réfléchissez, vous verrez cette petite question extrêmement intéressante. En effet, la semence, ce qui est en puissance, est antérieure selon le temps à l'homme qui existe en acte. Mais un être en acte, un homme existant, est lui-même antérieur selon le temps à la puissance. Car toujours, d'un être en puissance, l'être en acte est engendré par un autre être en acte. Il faut donc affirmer que l'acte est antérieur à la puissance selon la génération et selon le temps, sans oublier toutefois que pour un individu qui devient, la puissance est antérieure à l'acte. La semence est antérieure à l'acte. Ça, c'est très intéressant. Petite distinction. Ça, c'est face à Platon. Platon n'avait absolument pas fait cette distinction dans l'ordre de la génésie, dans l'ordre du devenir. Dès que vous êtes dans l'ordre du devenir, vous avez toujours deux aspects. Le devenir n'est intelligible pleinement que de deux manières. Tous les êtres en devenir. Il y a l'intelligibilité que vous avez en regardant le développement de l'individu, alors la puissance est antérieure à l'acte. C'est vrai, on a une certaine intelligibilité par le point de vue de la puissance. Vous voyez le développement d'un être. Une mère dira toujours, je connais parfaitement mon fils parce que je connais son devenir. C'est le raisonnement de toutes les mères. Elle ne dit pas le devenir, mais elle dira ça. Je connais parfaitement mon fils parce que je connais tout son devenir. J'ai vu tout petit. Tandis que vous, vous le voyez quand il est grand. Ben, on ne peut pas le connaître quand même. Hein. C'est le raisonnement de toutes les mères. Très, très curieux. Alors, si on regarde avec un petit regard aristotélicien, on sourit. Oui, vous avez connu son devenir, mais c'est peut-être pas à cause de ça que vous connaissez ce qu'il est. Vous avez connu toutes les maladies qu'il a eues. C'est intéressant, c'est très intéressant qu'elle ait fait devenir. Vous avez connu toutes les maladies, vous avez connu tous ces faux pas. Mais la connaissance d'un être, est-ce que c'est uniquement le devenir? Il y a autre chose. Alors, au point de vue de l'espèce, donc ce qu'il est dans sa nature, alors à ce moment-là, ce qu'il est dans sa nature est premier. Si vous ne connaissez pas ce qu'il est dans sa nature, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez son devenir, son pos, sa manière d'exister. Enfin, l'acte est antérieur à la puissance selon Lousia. Je vous dis, pour ceux qui s'intéressent à cette question-là, cette question de l'antériorité, donc de l'acte et de la puissance, ces trois distinctions que donne Aristote, ou ces quatre distinctions, qui sont les 1, 2, 3, et le 3, la quatrième, si vous voulez, puisqu'il est divisé en deux. C'est une question qui commande toute la critique. On voit donc bien qu'il n'y a pas qu'un seul ordre. Puisque vous avez l'intelligibilité, l'être et le devenir. Et dans le devenir, la dualité. Enfin, l'art est antérieur à la puissance selon l'ousia, selon la substance. Parce que les choses qui sont postérieures par la génération sont antérieures par la forme, eidos. Illusia. Par exemple, l'homme est antérieur à l'enfant et un être humain à la semence, car l'un a déjà sa forme, l'autre ne l'a pas. L'acte est encore antérieur selon l'ousia, parce que tout ce qui devient tend vers son principe et sa fin, car la cause finale est principe, et le devenir est en vue de la fin. Or, l'acte est une fin, et c'est en vue de celle-ci que se conçoit la puissance. Vous relirez ça, parce que ce sont des passages difficiles et intéressants à voir. Vous voyez, de cette affirmation, telos est energeia, l'acte est fin. Et c'est ça qui donne l'intelligibilité, vous voyez, tout d'un coup, Aristote ne le dit pas au début, mais quand il dit « telos est la fin et l'acte est fin », je crois que ça commande tout ça. Cette affirmation qu'il donne au terme, que l'acte est fin, ça fait tout de suite comprendre cette vision à l'intérieur même de l'être, pour bien nous faire comprendre que l'acte, c'est vraiment ce qui donne le sens ultime à l'être. On pourrait se poser la question, ce serait intéressant. Alors, je passe toutes les autres, j'ai simplement vu le livre Theta, alors, pour regarder tous les autres aspects. Et c'est surtout dans le De Anima que, c'est à propos du vivant, je dirais que la philosophie de l'acte est particulièrement développée. On pourrait se poser la question. Que devient cette fameuse distinction de l'être en acte et de l'être en puissance ? Chez saint Thomas, le père Henri Brincard fait sa thèse là-dessus. Et il voit combien c'est difficile et intéressant. Je l'ai lancé sur une piste extrêmement difficile. Je le savais, mais comme c'est quelqu'un qui a la compétence d'un chartiste et la compétence d'un philosophe, je crois qu'il peut le faire. Et c'est intéressant parce que c'est de voir par le sommet comment la philosophie d'Aristote dans son sommet est utilisée par le théologien. Il faut d'abord comprendre, vous comprenez ? Il faut d'abord comprendre la philosophie et de comprendre la théologie. C'est ça la difficulté. C'est que souvent vous avez des théologiens qui ne sont pas assez philosophes. Comment voulez-vous comprendre l'utilisation de l'être en acte et de l'être en puissance chez saint Thomas, théologien, si vous n'avez pas compris au moins un tout petit peu la métaphysique de l'acte et de la puissance dans le livre Theta d'Aristote? Si la distinction de l'être en acte et de la puissance est un sommet de la métaphysique, ce que je crois, je ne suis pas le seul, hein, puisque Heidegger est derrière et qu'il l'affirme. Alors, c'est intéressant, puisque Heidegger dit que le livre Theta, c'est le sommet de toute la pensée grecque. C'est intéressant de voir quelqu'un qui dit ça, en dehors, si vous voulez, de quelqu'un qui n'est pas aristotélicien et qui fait beaucoup de perspectives diverses. C'est donc intéressant de prendre ce sommet de la philosophie, de la métaphysique, et de voir qu'est-ce qu'il devient dans l'estomac du théologien. Le théologien, il a un estomac extraordinaire, puisqu'il part de la foi. Donc, il peut faire des synthèses qui sont beaucoup plus fortes et qui vont beaucoup plus loin que le philosophe. Le philosophe, il vole toujours au niveau hein, de l'intelligence humaine. Il touche des sommets, c'est très très intéressant, mais il va quand même moins loin. Vous voyez la fameuse, le fameux regard d'Aristote dans le livre Lambda, c'est de dire Dieu est acte pur. Il ne dit jamais Dieu est substance pure, ça, non. Mais pour lui, Dieu est acte pur, parce que c'est là qu'est le sommet. Donc si c'est le sommet, ben, Dieu est acte pur. Et c'est cette distinction-là que saint Thomas reprendra. Alors, c'est très intéressant cette question, parce que nous touchons là deux grandes interprétations de saint Thomas. Je ne vais pas entrer dans le problème. Hein. Vous lirez la thèse du père Henri Brincard, quand elle paraîtra. Mais je vais simplement souligner un problème que je crois très actuel par rapport à la pensée de saint Thomas. L'interprétation de saint Thomas par Étienne Gilson. C'est intéressant, parce que c'est Étienne Gilson. Et que ça continue d'exister. Interprétation de saint Thomas par Fabreau, l'italien. L'interprétation de saint Thomas par le père Geiger, dominicain français. Il est mort maintenant. C'est pour ça que je le cite. Parce que comme on enseignait à Fribourg ensemble, c'était difficile de son vivant de le citer. Maintenant, on peut le faire. Dieu du ciel, j'espère que nous sommes d'accord. Alors, on peut essayer de comprendre ces deux interprétations. Et elles jouent à ce niveau. Pour Gilson, pour Fabreau, pour le père Geiger, il y a dans la théologie de saint Thomas une nouvelle métaphysique. Qui est la métaphysique de l'essai. Pour Aristote, on est en présence de la métaphysique de l'ousia. Et Maritain, là, suit Gilson et dit la même chose. Hein, vous mettez en plus Maritain. Autrement dit, vous êtes en présence de tout, on pourrait dire, les grands thomistes d'aujourd'hui, Gilson. Et quand Gilson et Maritain sont du même avis, c'est très curieux. Gilson, Maritain, père Geiger, Fabreau, tous sont d'accord de dire ceci. Que la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique de l'essai, et la métaphysique d'Aristote, c'est la métaphysique de l'ousia. Autrement dit, Gilson le dit très nettement, et Maritain le dit encore plus nettement, puisque pour Maritain, il y a vraiment chez saint Thomas une intuition de l'être qu'Aristote n'a jamais eue. Donc on est en présence vraiment d'une nouvelle métaphysique. Donc on ne peut pas dire métaphysique aristotélicienne utilisée par le théologien, ce que je dis, on dit métaphysique nouvelle. C'est très important parce que quand vous lisez saint Thomas, est-ce que vous êtes en face d'une nouvelle métaphysique ou est-ce que c'est la métaphysique d'Aristote transformée par le théologien, par le bourreau. C'est intéressant de voir ça. Il y a deux interprétations tout à fait différentes. Première critique, j'en fais la critique, hein, vous comprenez bien. C'est pour ça que je vous le cite, mais je crois que c'est exactement ce point de vue-là, ce qui s'intéresse à ce problème, et c'est un problème vraiment du sommet. Hein, c'est pour ça que c'est intéressant. D'abord, en premier lieu, je veux dire, la métaphysique d'Aristote ne peut pas se dire métaphysique de l'ousia. Dans ce sens-là, on dira que la métaphysique d'Aristote, c'est une ousiologie. C'est le terme qu'ils emploient. une ousiologie. Vous voyez, le logos de l'ousia. Donc la métaphysique d'Aristote se ramène entièrement à la substance. Elle dit non, la métaphysique d'Aristote ne se ramène pas entièrement à la substance. Il y a un autre regard sur l'être que la substance. L'être en acte. Il y a un qui le dit, puisque l'acte est antérieur, et que l'acte est antérieur à la puissance, selon l'ousia. Ça prouve qu'il utilise l'ousia pour connaître l'acte. Il ne dira jamais que la substance est antérieure à la qualité selon l'acte. Ça n'aurait pas de sens. Tandis qu'il dit qu'elle est antérieure selon l'ousia. Donc il utilise l'ousia pour aller plus loin dans l'acte. Et c'est l'ousia devient le sycomore du métaphysicien de l'acte. Il se sert de l'ousia pour aller plus loin. Et c'est vrai, Aristote nous dit du reste. On se sert de la découverte de l'ousia pour découvrir l'acte. Donc, première remarque qu'on doit faire, c'est que la métaphysique d'Aristote ne peut pas être une ousiologie. C'est bien, c'est très vrai, c'est la métaphysique de Platon. Et même, non, puisque pour Platon, au-delà de l'ousia, il y a le bien. Et pour Aristote, au-delà de l'ousia, il y a l'acte. On ne peut pas ramener la métaphysique d'Aristote. La métaphysique de l'ousia, c'est en réalité la métaphysique qu'on retrouverait chez certains philosophes. Spinoza. Ça, je crois que c'est vraiment la métaphysique de l'ousiologie. Spinoza, c'est vraiment le point de vue de la substance. Seconde remarque. Comment saint Thomas définit-il l'essai? Alors ça, vous n'avez qu'à regarder saint Thomas, vous le trouverez tout le temps. Saint Thomas, quand il parle de l'essai au niveau métaphysique, dit toujours l'essai actus essendi. Qu'est-ce que c'est que l'essai? L'acte d'être, actus essendi. Vous dites exactement l'acte de celui qui devient l'être, qui est sandi, il devient, il est en devenir, il devient l'être. Donc, il définit l'essai par l'acte. C'est quand même curieux. Quand on disait ça à Gilson, je dis une fois, il n'a rien dit. Saint Thomas dit lui-même que l'essai actus essendi, l'acte d'être. Quand on veut expliquer quelque chose, on explique cette réalité par quelque chose de plus intelligible, et non pas de moins intelligible. Autrement, on serait contraire à la métaphysique de la priorité de l'acte sur la puissance. Le parfait peut définir l'imparfait, mais l'imparfait ne peut pas définir le parfait. Il dit toujours « essai actus essendi » ou « l'essai, la forme des formes, l'acte ultime », c'est toujours l'actualité ultime, ce qu'il y a de dernier. Donc, si saint Thomas définit l'essai par « actus essendi », il considère donc que la noce, que ce qu'est l'acte, est plus intelligible que l'essai. Et que l'essai est tout simplement un acte particulier, un acte au niveau essendi. Je crois, si on lit saint Thomas sans a priori, on est bien obligé de reconnaître que cette métaphysique de l'essai, qui existe, tout à fait d'accord, cette métaphysique de l'essai, elle existe en fonction de la création. Parce que, pour saint Thomas, la création regarde l'essai participer. Ça, c'est vrai. Et là, saint Thomas donne des choses qu'Aristote ne donne pas. Parce que le théologien regarde la création. Dans la lumière de la création, toutes les réalités apparaissent comme des essais participés. Alors, c'est très vrai que la métaphysique de la création, c'est bien la métaphysique de l'essai. Alors là, entièrement d'accord. Mais la métaphysique de la création, ce n'est pas la métaphysique tout court. C'est un aspect, un moment, une vision de sagesse. Ce n'est pas la métaphysique tout court. Alors, l'essai participer, c'est très vrai, c'est quelque chose de très important. Comment saint Thomas précise-t-il ce qu'est Dieu ? Il dit que Dieu est l'ipsum esse subsistens. Encore, c'est très important, quand il s'agit de Dieu, il dira que Dieu est absolument saint, il est l'ipsum esse. Mais quand saint Thomas dit que Dieu est l'ipsum esse subsistens, il va tout simplement dire que Dieu est l'acte pur. Ceci, c'est une conclusion de montrer qu'en Dieu, il n'y a aucune potentialité. Donc, il est l'acte pur. Il est l'essai subsistance. On est devant les deux grandes modalités de l'essai. L'essai subsistance qui est premier, l'essai participer qui est second. C'est très vrai, ce sont deux modalités. Mais la métaphysique ne regarde pas les modalités de l'être, elle regarde l'être. Même autre chose, de regarder ce qui est ou la manière dont vous existez. La manière dont vous existez, c'est second. Tandis que l'être est premier. Donc je crois que nous pouvons dire, hein, si on essaie de réfléchir, que l'essai pour saint Thomas, se prend tout le temps de l'acte.